Ça ne sera rien. Vous pouvez. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce. Silence, juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait.
D'abord, un bulletin d'information à la suite duquel vous pourrez écouter une émission sur les vendeuses et les grands magasins. Le 5 décembre a eu lieu à Berne une manif pacifiste qui réunissait 40 000 personnes. Le mouvement pacifiste européen est millionnaire. Nous y étions perdus dans la foule compacte, mais pas comme pacifistes. La paix, c'est quoi la paix? La paix des hommes, ça se fait sur le dos des femmes. Les hommes nous violent et ils n'attendent pas la guerre pour ça. Et puis, les pacifistes, ça se range dans un camp, surtout anti-américain. En ce moment, ça risque de changer. Nous, notre camp, il n'existe pas. C'est le troisième. On est des femmes guerrières contre leur guerre. À ce propos, nous annonçons la venue pour fin janvier de deux cochons qui se valent, l'américain Egg, le russe Gromyko. Il va sûrement se passer quelque chose pour les accueillir. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux. Et puis demain, il y a de la fête en perspective. Au Mollard, à 18h, il y a une fête prévue. Je vous lis le tract d'appel à cette fête. Cette année, on se fait notre fête de Noël à notre idée. Offensive, entre parenthèses. Pendant que les bourges baffrent jusqu'à en devenir répugnants, nous, on fait comme chez nous, en plus grand. Ils nous foutent hors du centre avec leurs bagnoles, leurs parkings, leurs banques, leurs hôtels de luxe, leurs galeries commerciales et leurs flics. Il y en a marre. On n'a pas avalé leur dernier coup de feu lors du vidage des occupants de Coutances qui campent toujours dans une paroisse. Amener des objets bruyants pour improvisation. Au Mollard, à 18h, jeudi 17 décembre. Et puis, la petite rubrique du sexisme ordinaire. À Zurich, histoire de distraire les spectateurs présents dans le Hallenstadion de Zurich, à l'occasion des récents 6 jours cyclistes, les organisateurs n'ont reculé devant aucun sacrifice. C'est ainsi que plusieurs attractions meublaient les temps morts, jusque et y compris du striptease. La continuation de l'affaire des femmes comme cible à l'armée. Vous pouvez signer une lettre d'indignation à envoyer à l'OFRA 3012 Berne. Il y a un texte déjà prêt que vous pouvez obtenir à la même adresse. Des photographies de femmes nues ont été utilisées comme cible. Les tireurs pouvaient choisir leur partie préférée et, en cas de réussite du tir, apposer leur signature sur l'endroit choisi. Il ne fait aucun doute que l'individualité de la femme représentée ne jouait aucun rôle, ni pour les tireurs, ni pour leurs supérieurs. C'est la femme en général qui était représentée, c'est-à-dire toutes les femmes, c'est-à-dire chaque femme. Ce texte, vous pouvez le signer et l'envoyer, enfin le demander à l'OFRA à Berne et l'envoyer à la même adresse, je répète, OFRA 3012 Berne. L'armée nous prend pour cible, prenons l'armée pour cible. Et puis en Allemagne, un nouveau gadget au service de tous les pervers, cochons, sexistes, pissistes, caquistes, j'ai nommé les messieurs. Ils peuvent s'offrir pour 25 marques le luxe de traiter de chiennes et autres noms d'oiseaux les femmes dans le besoin. Ça s'appelle téléphone sexe service. Ça a commencé en Allemagne, ça fait fureur à Francfort, ça se répand en Helvétie. Et attention, les ciseaux, ça sert aussi à couper les fils de téléphone. Bientôt, une émission sur les grands magasins et le métier de vendeuse. Au bonheur des dames!
Bonsoir, bonsoir, c'est Radio Zone. Dans deux minutes, nous allons écouter une émission sur les grands magasins. On va se promener dans les grands magasins. C'est la pleine lune.
Thank you. cette grand passage Uniprix, Migros, Coop, Bon Génie, Spengler, achetez dans les grands magasins. C'est la fête, Noël, achetez cadeaux, achat toujours plus faux fric, achetez, vendez, achetez, travaillez pour acheter, consommez pour acheter, travaillez, achetez, vendre,
nous offre l'impression gratuite de vos monogrammes pour tout achat de l'un de ces articles. Alors pensez-y afin de personnaliser un cadeau toujours apprécié. Offrez un pyjama ou une chemise de nuit de haute qualité Calida. Calida en grande promotion actuellement dans votre magasin à l'entrée comme là-bas.
Au bonheur des dames, une émission de la pleine lune sur les grands magasins et le travail de vendeuse.
Le client, c'est-à-dire surtout s'il y a une nouvelle, il cherche toujours à l'embêter, c'est ça. Et surtout pendant les fêtes, les clients sont énervés, les vendeurs sont énervés, puis il y a toujours... Mais les clients sont vraiment insupportables, parce qu'ils savent, le client est roi, le client il fait ce qu'il veut, alors la vendeuse, elle a le droit à rien dire. Ça, je trouve vraiment désagréable, parce que pour une vendeuse, c'est pas agréable. Enfin, j'ai souffert parce qu'il y avait trop de travail et c'était très mal payé et qu'on s'est fait traiter vraiment comme, pas comme un employé, mais comme des esclaves, je veux dire, hein, je sais pas. Parce qu'il faut tout faire, il faut tout supporter, surtout il faut supporter ça m'échappe. Surtout le chef, il faut supporter, s'il dit quelque chose, il faut le faire. Enfin, un tas de choses que... insupportable, quoi. Les jambes, c'est fatigant, ça fait mal aux jambes toute la journée debout, c'est très très fatigant. On arrive à la maison, on n'a plus envie de rien faire à la maison. Fini, moi j'arrivais même pas à m'occuper de ma gamine. C'était... Non, mais franchement, j'ai vécu pas vraiment faire parce que rien, presque travailler pour rien du tout. Hein.
Est-ce que c'est toujours facile de rester souriant toute la journée là?
Ah non, pas du tout alors. Il faut être ferme, il faut... En tout cas, il y a des jours que nous-mêmes, on n'est déjà pas bien. Et puis, parfois, on n'accepte pas les crans des autres clients. Et parfois, on est mal aussi dans notre peau et on répond mal aussi. Pas toujours, mais enfin, on garde toujours notre foi. Mais en principe, on essaie de répondre gentiment. Et parfois, ça arrive qu'on a des crans avec des clients et qui montent juste au bureau. Parfois, ça arrive.
Tout se passe, voilà.
Ce qui se passe, que le patron il nous appelle parfois et il nous essaie de s'arranger aussi, de nous dire qu'il faut rester calme et pour donner satisfaction au client, mais au fond, le client il paraît qu'il reste roi, il essaie de faire partir les vendeurs, il y a des clients qui menacent et disent voilà, je vais chez votre patron, comme ça je vous fais mettre à la porte, mais c'est pas toujours ce que les clients y pensent vraiment.
Pensez pas.
Non, je ne pense pas. Les clients. Comme le patron, il doit faire le oui et le non, il a besoin d'une et de l'autre. Alors il essaie d'arranger les choses.
Oui, bien sûr, le patron, il tient beaucoup plus aux clients qu'à les vendeuses, parce que les vendeuses, il les trouve. Mais ce qu'on lui dit aussi parfois, qu'une bonne vendeuse, il la trouve pas si facilement que des mauvais clients. Parce qu'une bonne vendeuse, il faut aussi savoir la garder. Mais lui, c'est quand même garder une vendeuse qui est bonne, même s'il la passe un peu au savon, ben, ma foi, ça passe comme ça. Mais jamais il nous menace de mettre à la porte, ou bien, si ça répète, bon, c'est vraiment grave, d'accord. Mais autrement, s'il y a juste une petite dispute, on devait la voir, alors là, il n'y a pas de discussion, là. Il dit qu'il faut faire la prochaine fois une exception, il faut accepter la chose, puis voilà.
Il y avait vraiment un conflit grave, par exemple, un client qui ne soit pas du tout d'accord, qui va se plaindre chez le patron. Est-ce que vous croyez que votre patron, dans quel camp il se situe? Est-ce qu'il est prêt à vous défendre vraiment ou bien?
Non, dans le camp du client. Il y a eu des cas vraiment assez graves que des vendeuses, ils ont vraiment envoyé chier les clients et puis ils sont fait mettre à la porte le lendemain. Oui, chez nous-mêmes.
Le client est roi, quoi.
Et puis moi je voudrais vous poser des questions au sujet de votre salaire et puis vos horaires. Alors là, ce que vous pourriez dire un petit peu, parce que je crois que comment c'était avant l'Uniprix, comment c'est maintenant?
Disons, jusqu'à maintenant, les salaires ils ont été toujours assez bas, en tout cas à l'Uniprix, très bas par rapport au travail qu'on fournit. Bon, évidemment, il y a des vendeuses qui sont très bien payées pour le travail qu'ils font. Mais des vendeuses que vraiment se donnent beaucoup de peine, on n'est pas récompensé par de salaire. Mais pareil que cette année, il fait un grand effort et puis ça va changer, on attend ça.
Et les horaires alors?
Les horaires, je trouve qu'ils sont pas mal parce qu'on fait quand même 8h, 3h. Et puis on a 2 heures de pause entre deux. Il y en a qui s'arrangent parce qu'ils habitent près, ils peuvent s'allonger un moment. Et il y en a qui ne l'arrangent pas parce qu'ils habitent loin. Et puis la journée est longue. Et je trouve que ça, dans la vente, on pourrait arranger ça. On pourrait, les vendeurs qui habitent loin, on pourrait lui faire un autre horaire. Venir plus tard le matin, partir alors le soir, faire moins d'horaires plutôt dans la journée.
Et je voudrais savoir en quoi consiste, parce que vous êtes première vendeuse, et on m'a dit que, enfin une vendeuse m'avait dit que les premières vendeuses étaient privilégiées par rapport aux autres vendeuses. Qu'est-ce que vous en pensez?
Privilégiées, simplement parce qu'on a 100 francs de plus, c'est tout. On n'est pas privilégié pour d'autres choses, parce que la première vendeuse est responsable de commander la marchandise, de la descendre au rayon, de faire la mise en place, en même temps s'occuper des clients parfois, et puis faire le nettoyage en réserve et tout, contrôler parfois, parce qu'ils n'ont pas le temps, les contrôleurs. C'est ça, le rôle de la première vendeuse, c'est vraiment, ils ne s'amusent pas.
Ça justement, la manutention, puis le travail de nettoyage, toutes les vendeuses doivent faire ça?
Mais pas un nettoyage, je ne sais pas, à panosser par exemple, non. À faire la poussière, à faire le plumeau sur les habits, par exemple à la charcuterie, de tenir propre, de laver les plats, de présenter toujours la marchandise, qu'elle soit bien présentable. Mais pas un nettoyage de panosser par exemple, ah non, ça jamais de la vie.
Comment se situent les patrons là, par rapport aux revendications syndicales en général, par rapport au travail, aux heures, au repos?
En principe, les patrons, ils n'aiment pas les syndicats. Mais à nous, naturellement, je pense qu'ils ne nous ont rien dit. Mais j'espère qu'un jour, les patrons, ils se mettent d'accord avec les syndicats, parce qu'ils ont aussi à gagner quelque chose pour les syndicats. Il y a tellement de choses qu'ils peuvent discuter avec, et puis mettre les points dessous, dire c'est ça, ça et ça. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils vont penser des syndicats, je ne peux pas vous dire.
Là, vous travaillez à l'Uniprix, donc, est-ce que ces conditions étaient acceptées par rapport au salaire ou comme ça?
Il me semble, après les conférences qu'ils ont fait les syndicats, que rien n'a été accepté. Tout ce qu'ils ont demandé les syndicats, ça a été refusé. Mais ils font un effort eux-mêmes sans accepter ce que ça a été posé. Mais il nous semble que c'est à peu près ça, ce que les syndicats ils ont posé comme condition.
Quels sont vos rapports entre vendeuses en général? S'il y a un problème, je sais pas, soit de salaire, soit de travail, soit de famille, comment sont vos rapports? Est-ce que vous vous parlez?
Bien sûr qu'on se parle. Le salaire n'a rien à voir avec le contrat qu'on a entre nous. Tout problème, c'est ailleurs que les personnes. Je pense qu'il faut ça, les personnes moins intelligentes, parce que le salaire, c'est le patron qui le fait, c'est pas moi. Je le pense.
Il y a une solidarité qui se fait alors, entre vous, quoi, en général.
Pardon?
Il y a une solidarité qui se fait entre vous, en général.
Si vous voulez, parce que question de salaire, entre nous, disons, on n'en parle pas ouvertement, parce que les salaires, ils sont très différents d'une vendeuse à une autre.
Comment ça se fait, ça?
Ça se fait qu'on est payé par rapport à la rayon, par rapport aussi que le patron, la seule chose, disons, il est très reconnaissant, la vendeuse qui travaille et la vendeuse qu'elle est moins bien. Il la garde quand même, parce qu'il dit qu'elle a quand même aussi le droit de vivre, mais là, il y a quand même quelque chose qui fait une différence. Les salaires, ils sont très différents à l'Uniprix. Je ne sais pas ailleurs.
Mais comment le patron il peut juger si une vendeuse elle travaille par rapport au chiffre d'affaires? Comment ça se passe?
Le patron, disons le directeur, il est très souvent dans le magasin. Et puis, il voit aussi les plaintes des clientes, qu'une vendeuse, elle n'est jamais à sa place, les plaintes d'un chef, que cette vendeuse, elle n'est jamais à son rayon, et puis il y en a d'autres qui n'ont jamais de plaintes. Alors déjà là, lui, quand il roule dans le magasin, il voit celle qui est assise, et celle qui bosse, là, quand même, il voit. Et puis, il voit la vendeuse qui se donne la peine et celle qui ne se la donne pas. Alors, c'est là, je pense, que la différence, qu'on a des salaires. Les salaires, ils ne sont pas toutes les mêmes, ni entre les premières, ni les vendeuses, ni les auxiliaires. Aucune n'a le salaire la même chose.
Ça fait pas, qu'est-ce que ça crée entre vous, ça, ces différences de salaire?
Justement cela, entre nous, on ne se parle jamais de salaire. À moins qu'on vraiment, on est des copines et qu'on a confiance et qu'on est longtemps, disons, que ça fait dans un magasin, là on se confie. Une qu'est-ce qu'elle a, l'autre qu'est-ce qu'elle a, que vraiment il n'y a pas de jalousie parce qu'on s'aime bien entre nous, mais on ne peut pas raconter le salaire en général en étant une soirée, on parle de salaire, ça on ne peut pas le faire. Il y aurait trop de jalousie et trop de bagarres. C'est pour ça qu'on s'aime bien chez nous, qu'on ne parle jamais de salaire, entre nous.
Mais vous pensez que c'est normal ça, que dans un lieu de travail où quand même presque tout le monde fait le même travail, la même chose, il y a des différences de salaire aussi grandes?
Ce n'est pas normal, parce que tout le monde a le droit de vivre et de travailler. Mais justement, c'est dur parfois aussi de travailler pour sa copine. Sa copine aussi devrait mettre un peu de bonne volonté, d'essayer d'aider l'autre. Je ne dis pas que moi je gagne plus qu'elle parce qu'elle travaille moins, mais je préfère qu'elle gagne la même paie que moi. Mais il faut se donner la main. Il faut s'aider entre nous. Si on choisit de faire vendeuse, on choisit de travailler ensemble avec les collègues.
Donc pour avoir un bon salaire, on a intérêt à se mettre sous ses gardes, à être gentil, à sourire aux clients, à ne pas avoir de plaintes, quoi.
C'est même pas ça. C'est même pas pour avoir un bon salaire. Parce que parfois, c'est aussi question de caractère d'une vendeuse. Une vendeuse, par exemple, moi-même, quand je travaille, je ne pense pas à mon salaire. Parce que des fois, si je penserais à mon salaire, je crois que je partirais à la maison. Par comme il est bas le salaire. Mais on n'y pense pas. C'est l'esprit, ça. Une vendeuse, elle l'a déjà dans l'esprit. Et puis, c'est aussi le caractère. Qu'on se lance, on doit faire, et on voit les clients devant, il faut les servir. Mais on ne pense pas tellement au salaire. Parce que si on penserait au salaire, c'est un peu... On n'est pas tout le temps en train de réfléchir et de dire, tiens, si je travaille plus, il me payera plus. Non, pas ça du tout, alors. Non, on travaille parce qu'on a un bon sens d'humour de travailler. Et c'est pour ça qu'on le fait.
Moi, j'ai travaillé ailleurs et jamais je n'étais encore...
Vous avez travaillé?
À la placette. Jamais ils ont fait de conférences de ce genre. Ils en font pas mal à la placette. En fait, il est beaucoup trop grand. Ils ont beaucoup plus à faire avec le... Puis c'est pas du tout la même organisation. Il faut pas comparer la placette et l'Uniprix, vraiment.
Pourquoi vous êtes pas resté à la placette?
Parce que moi, la placette, je m'y perdais dedans. C'était pas familier, il n'y avait pas de contact. C'était un peu travaillé à la prime, si vous voulez. On avait des choses de 10%. Et entre 22, c'est secouré après. C'est mon client, ton client. Je trouve que ça, c'est pas beau. À mon avis, les clients, une vendeuse, ils peuvent servir tout. On est payé au moins, je trouve que c'est mieux. Parce que chacun... C'est là qu'il aime bien faire la vendeuse, qui est vendeuse vraiment, il prend n'importe quel client, il n'y a pas de différence.
Vous étiez comment payé à la prime, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire, on avait un salaire et en plus de ce salaire, on avait des chaussures, disons, à mettre des chaussures de 6 mois qu'on ne vendait pas. Si on les vendait, on avait le 10% sur une paire de chaussures, 7 francs, on avait 7 métaux. Et puis à la fin du mois, en vendant tout le mois, ça nous faisait quand même 150, 200 francs. Il y en a qui secouraient après, alors moi j'aimais pas. Parce que moi j'aime avoir le contact avec les clients et je ne servirai n'importe quel client sans avoir le 10% ou quoi. Je préfère payer au moins.
Disons, je n'ai pas grand chose à ajouter sur ce sujet. Mais comme ma collègue, elle dit qu'entre nous, il ne faut pas penser du mal qu'une autre, elle peut prendre l'argent dans la caisse, ça s'est arrivé. On ne doit pas le penser, parce qu'autrement, là, ça vient une froideur entre nous, mais c'est arrivé. Et fréquemment, et toujours plus, c'est toujours des personnes que vraiment on ne s'imagine pas. Mais cela, personnellement, à nos vendeuses, ça ne nous regarde pas. Il y a des chefs et des surveillants, un directeur, je pense qu'il est là pour ça. Ce n'est pas à nous à dire ceci elle vole ou l'autre elle vole. Parce que c'est arrivé beaucoup, nous on peut y voir. Mais on ne peut pas se prendre une cuite avec une autre collègue parce qu'elle vole. C'est ses affaires et il y en a qui peuvent la surveiller et qui sont payés pour ça. Nous, on n'est pas payés pour ça, on est payés pour faire notre travail. Il y a la honnête et la pas honnête. Mais nous, on est là pour travailler de vendeuse, pas pour surveiller.
Justement, par rapport au vol, par exemple, comment ça se passe si vous voyez aussi que les clients, ils volent, quoi? Comment vous réagissez?
Ben, si les clients volent, si on peut aller vers la cliente gentiment, lui dire ce que vous désirez, ou s'il n'a pas mis encore dans son sac ou quoi, on peut encore l'avoir le mandat sous la main ou ailleurs, je ne sais pas. Ben, la cliente n'est pas sortie, on essaie de le prendre. Mais si vraiment la cliente l'a mis déjà dans son sac et qu'il veut partir, moi je trouve que les chefs ils sont payés pour ça, ils n'ont qu'à surveiller. C'est pas à nous à courir auprès de la cliente pour se faire taper, pour lui dire que vous assurez.
On vous le demande pas, on vous demande pas, vous n'avez pas une prime par exemple si vous attrapez les voleurs dans les...
Oui. Si, on a une prime. Mais cela, personnellement, ce n'est pas intéressant d'avoir la prime vis-à-vis qu'on trouve un client qu'on vole. Quand ça m'est arrivé à moi, par exemple, cela aussi, c'est une grande chose que je tiens à vous dire. J'ai travaillé beaucoup au vin. Au vin et spiritueux. J'ai eu un client, un Algérien, qui venait tous les soirs régulièrement piquer une bouteille. Tous les soirs. Alors, au début, j'ai voulu lui dire, monsieur, votre côté, il faut la payer. Alors, il me parlait en arabe, il me faisait peur. Bon. Jusqu'à quand j'ai averti un chef. J'ai dit à un client qui vient régulièrement. Alors, quand il est arrivé, le chef, je l'ai appelé, il est venu. Alors, il est venu, le chef, et il lui a dit de payer la bouteille. Alors, le type, il s'est retourné mal. Alors, le chef, ils ont peur aussi. Souvent, ils sont armés. Et justement, cet Algérien, il était armé. Que pour finir, à la fin, ça s'est vraiment défini mal. Et que cela, je n'ai vraiment pas apprécié. Donc, de mon patron, ça a fini que le client, il était pris par le patron, ils ont appelé la police. La police, après, on était en tribunal, parce qu'ils l'ont emprisonné. Et en tribunal, et j'ai dû aller, j'étais là, appelé à la police et au tribunal, à reconnaître ce type et confirmer que ce type, il venait voler. Alors, moi, j'ai refusé de témoigner devant le type, parce que c'était un Algérien. Je n'ai rien à faire avec. Moi, je tiens pour le magasin que personne ne vole pas. Mais si c'est vraiment question judiciaire, je ne tiens pas à aller en tribunal. Et cela, j'ai très mal pris parce que ce n'était pas ma place d'aller témoigner que ce client ait volé quand il a pris le patron et des chefs. Ce n'était pas à la vendeuse d'aller témoigner, c'était au chef et au patron.
Bon, c'est pas un peu des fois que c'est normal qu'il y a des gens qui volent avec tout cet étalage de marchandises qui coûtent...
Ça tente beaucoup le vol, énormément. Oui, c'est trop, vraiment trop à la portée de la main. Mais dans un magasin, je pense aussi qu'ils ne peuvent pas mettre les choses en cachette et puis de demander « je veux telle chose dans la vitrine ». Je pense qu'un grand magasin, il faut que ça soit exposé. Et c'est déjà un peu la confiance qu'on peut donner à la clientèle, que la clientèle, elle se voit large. Mais évidemment, la trop largeté, ça les fait tourner l'esprit, et puis c'est là qu'il y a aussi des grands vols.
Surtout quand on sait que certaines vendeuses, elles vendent, je ne sais pas, par exemple, une robe qui peut coûter, je ne sais pas, 2000 francs comme ça, presque plus que, en fait, leur salaire d'un mois, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi, quoi?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais, qu'est-ce que ça... Je veux dire, si on vend souvent des choses qui sont en fait plus chères que ce qu'on gagne par mois, quoi.
Mais ce que ça veut dire, il ne faut pas être vendeuse, c'était déjà dire je gagne un minimum de salaire, on ne peut pas se faire des grandeurs de nos idées. Ça c'est tout, ça vient de l'esprit, parce que les grandeurs, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. On vit normalement pour le peu qu'on a. Alors c'est là qu'il a l'argent à jeter pour la fenêtre, il a qu'à dépenser l'argent. Je ne pourrais jamais porter un manteau de vaisseau, mais je ne pense pas de le porter non plus. C'est-à-dire ça vient tout de la personnalité, comment on pense les choses. On est fait pour avoir un gros voiture, on ne fait pas.
Mais bon, disons que ça peut être... Moi je pense que ça peut être assez légitime, quoi. Le fait d'avoir des envies, quoi, des fois... Justement, quand on est confronté avec cette richesse, en fait, tous les jours, quoi.
C'est sûr, cela, oui. D'accord. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas se permettre. Et surtout dans le métier, on revient toujours à le salaire d'une vendeuse, que des fois, on aimerait pas mal de choses. Peut-être pas une robe de grandeur, pas un manteau de vison, mais quand même vivre qu'un soir on peut sortir, qu'un soir on peut dépenser plus que d'habitude. Mais une famille avec deux enfants, le mari qui ne gagne pas des masses et la femme vendeuse, on ne peut pas se permettre de viser grand quand on est très petit.
Vous ne pouvez pas vous permettre des sorties le soir et
non.
Tout ça.
Non. Non, avec deux enfants, le salaire d'un mari pas grand, disons toujours dans le salaire des ouvriers, et le salaire d'une vendeuse, on ne peut pas permettre de faire des sorties et de donner tout ce qu'on veut aux enfants, parce que maintenant, aux enfants, disons, on ne lui donne pas tout ce qu'on veut, mais on est presque obligé, se sent obligé de la vie qu'on mène actuellement, de donner aux enfants plus que nous on a eu, parce que j'aimerais personnellement, moi j'ai deux enfants, j'aimerais pas qu'ils seraient vendeurs, pas du tout. Soit comme ils sont traités, soit le métier, soit le salaire, que c'est minable, et je voudrais pas mes deux gamins qu'ils soient vendeurs.
Donc, pas d'enfants, vous dites?
Même quand on n'a pas d'enfant, bien sûr. Prenez le loyer à un studio, 600 francs. Vous payez les impôts, 300, 400 francs par mois. Ça dépend ce qui vous taxe dessous. Ça fait déjà 800 francs. Et puis vous avez l'électricité, le gaz. Et puis peut-être vous avez une télévision. C'est ça qui vous console le plus, parce que vous regardez la télévision. Alors, additionnez déjà ça et vous voyez combien ça fait. Et la vieillesse, c'est la caisse maladie. Et la caisse de retraite, eh bien, la fin de mois, si vous gagnez 1200 francs net, à part qu'il faut payer tout ce qui vous reste, moi je trouve que c'est vraiment pas beaucoup.
Il y a beaucoup de vendeuses qui gagnent 1200-1300 francs bruts. Hein.
Oui, ça existe encore qu'il y a des vendeuses qui gagnent 1400-1300 francs bruts et puis qui sont 18 ans, qui s'aiment commencer leur vie, parce que maintenant c'est à 18 ans, et c'est là qu'on vit le plus. Encore une personne qui a 30 ans, 40 ans, elle a passé un peu le barème, il commence à comprendre, il s'y tient un peu à écart, il ne sort plus. Mais je trouve que c'est quand même malheureux qu'ils ne peuvent pas se payer tout ça.
Demandez combien, par exemple, maintenant, vous penseriez qu'il faut, disons, comme salaire pour bien vivre, quoi. Vivre plus ou moins normalement, quoi.
Je vais répondre. Pour vivre convenablement, moi, je me suis toujours battue, soit vis-à-vis des syndicats, soit vis-à-vis d'un patron. Par exemple, un homme. Pour vivre, je parle dans une couple. Avec deux enfants, un homme, il devait avoir 3000 francs de salaire. Et une femme, 2002-2003 à la journée complète. Ça serait un salaire de se permettre de vivre un peu plus librement, pas de riche, mais plus librement, de donner ce qu'ils veulent aux enfants à l'aise, de les faire étudier, de lui payer les études et les habits un peu convenables, pas luxueux, et de temps en temps de faire des petites sorties. Mais par contre, cela, ce n'est pas le cas. Et pour donner tout ce qu'ils veulent les gamins, que c'est tout à fait normal, qu'on veut les enfants qui vivent mieux que nous, pour faire cela, on doit se priver des sorties. Malheureusement, on ne doit pas se priver du manger, parce que alors, si on se prive du manger, je ne sais pas pourquoi on travaillerait. Mais au moins, on doit se priver des sorties, de faire des balades en voiture, et au lieu de rouler avec une belle voiture que tout le monde en dit, bien, je travaille tant, je pourrais quand même avoir une voiture neuve. Eh bien, non, moi, ça fait 20 ans que je suis mariée, j'ai toujours une casserole de voiture qui perd les roues, franchement. Alors, on change celle-ci, on apprend une autre, mais toujours des occasions. J'ai jamais pu me payer une voiture neuve. Donc, on n'a jamais pu, les deux, en couple avec mon mari.
Oui, alors, pourquoi est-ce que vous dites un homme 3000 et une femme 2200 avec le même métier ou avec le métier?
Ah non, non, pas du tout. Hein. Pas du tout.
Bah justement, ça, est-ce qu'il y a des vendeurs à l'Uniprix?
Oui. Il y a des vendeurs, pas beaucoup. Il y en a un, je crois, à ce moment. Il y en a un.
Est-ce que les vendeurs, les hommes, ils gagnent autant que les femmes ou plus?
Non,
ou...
plus que les femmes.
Et pourquoi ça?
Ben, pourquoi? Parce qu'il est un homme, naturellement. Les hommes, il paraît qu'ils tiennent une famille et pas une femme. Moi, je crois que c'est pareil. Moi, je suis seule et il faut que je fasse tout de seul. C'est pareil qu'un homme. Un homme, il vit dans un studio. Moi, je vis dans un studio. Je pense que c'est tout à fait pareil.
Alors, il y a un vendeur à l'Uniprix et un vendeur sur toutes ces vendeuses, ils gagnent plus que les vendeuses.
Ouais.
Toutes les vendeuses, même que les premières vendeuses.
Oui. Il y en a eu plusieurs de vendeurs à l'Uniprix, mais ils sont tous pas fait vieux. Il y en a qui sont faits 2 mois, 3 mois, parce qu'avec des salaires qu'ils avaient à l'Uniprix en étant homme et qu'une femme s'y contente parce qu'on y est obligé, un homme il s'y contente pas, il va ailleurs, même aller balayer dans la rue ou aller décharger des camions, mais il peut pas vivre un homme avec 1900, 2000, 2200 francs, parce que l'Uniprix donne pas 2000 francs à l'entrée. Et rentrer un jeune de 22 ans à l'Uniprix avec un salaire de 1300 francs.
Get you on a high plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the pen pin and take you down deep where it's hot, hot in the radio, baby, then cool, cold, you feel the snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we dream it, when we dream it, when we dream it.
Être vendeuse à Genève, dans un grand magasin, ça veut dire travailler 42 heures par semaine. En supposant, bien sûr, que les vendeuses ne font que 42 heures par semaine, ce qui n'est souvent pas le cas. Et gagner la somme magnifique de 8 francs 60 par heure. Ça fait 1563 francs par mois, 113e mois. Quand vous avez travaillé 7 ans dans la même boîte, vous gagnez 11 francs 45 de l'heure, 2084 francs par mois. Après 7 ans de vente, vous arrivez à un salaire encore inférieur à celui des femmes de ménage. Excusez-moi, une petite interruption.
Allô, Radio Zone?
Oui.
Voilà, je m'appelle Chantal, je suis vendeuse dans les grands magasins. Et puis, ouais, j'ai un petit problème, quoi. C'est même un grand problème, quoi. J'ai envie de les tuer, quoi, les gens qui sont dans les grands magasins. Ouais. Puis ces clients, quoi. Ah, ces clients, ben, ils me font chier, quoi. Vraiment, ben. C'est un culé qui vient, là, puis qui achète tous les jours cette gamme. Et puis l'autre, cette poufiasse, là, qui vous demande des questions comme, alors, mademoiselle, on peut les graver, vos verres? Bon, qu'est-ce que j'en sais, moi, si on peut les graver, mes verres, quoi. Hein? Et puis cette pub, quoi, cette pub sans arrêt, cette musique, quoi, j'en ai ras-le-bol, je l'ai tué, je vous jure que je l'ai tué, ces gens, quoi. Hein?
Oui, Chantal, oui.
Et puis, je sais pas, moi, quoi, je sais pas, le réveillon, moi, j'aurais envie de le faire comme tout le monde, quoi. Et puis, je peux pas avec ces prix, quoi. Vous avez vu combien ça coûte en réveillon, quoi? Ça coûte 100 francs en réveillon pour manger, quoi. Moi, j'en ai marre, quoi. Moi, je vous jure, je vais les tuer, ces gens. Je vais les tuer, je vais tuer le patron, je vais tuer les clients. Tout, quoi, tout.
Oui, Chantal. Oui. Mais cependant... Songez que votre profession a quelque chose d'exaltant. Mais oui, le salaire, oui, ce sont ces aléas de l'existence. Mais la compensation est de taille. Songez à cette rencontre quotidienne avec ces individus pleins de promesses, ces inconnus que sont les clients. Chaque client... C'est une planète. Les gens sont des mondes, Chantal, des mondes. Allons, quel âge avez-vous?
J'ai 50 ans, madame.
50 ans. 50 ans, mais vous avez la vie devant vous. La vie et ce métier qui, somme toute en est un, avec ses joies et ses servitudes. Allons, Chantal, c'est Noël. La fête est là, toute proche. Sachez trouver la fête. Sachez trouver la fête par-delà les petites misères. Vous avez 10% sur tous les achats de votre magasin, non?
Eh oui, être vendeuse, ce n'est vraiment pas facile. En plus, quand on est vendeuse non qualifiée, ce qui est le cas de la plupart des gens, des vendeuses dans les magasins, on gagne 6,35 francs par heure, 1152 francs par mois. Après 7 ans de boulot, vous arrivez à la somme de 1900 francs par mois, 113e mois, bien sûr. C'est impossible de vivre avec un salaire pareil, surtout si on a encore des enfants dont on doit payer la garde. Beaucoup de vendeuses sont allées s'adresser à l'assistance publique, au BUCAS, à l'Hospice Général. L'État complète ainsi le salaire des vendeuses. Et pourtant, ce ne sont pas des cas sociaux.
Vendeuses-là, ça leur plaît leur boulot, elles ont un salaire de misère, elles sont crevées, elles ont mal aux jambes et tout, mais elles font quelque chose.
Elles ont commencé à faire signer une pétition pour augmenter leur salaire à 2000 francs pour tout le monde. Elles ont récolté 1000 signatures en très peu de temps.
Ça marchait ?
Ben, c'était pas très facile parce que les signatures pouvaient pas être récoltées dans le magasin, bien sûr. Les vendeuses sont trop surveillées par les chefs, les petits chefs, et puis elles sont trop fatiguées, trop harassées. Les signatures, elles ont été récoltées à la sortie du magasin le soir, parfois jusqu'à 7 heures du soir, quand les vendeuses étaient fatiguées et se précipitaient sur les bus.
Puis t'en connais, toi, de ces vendeuses qui font partie de ce groupe, là ?
On est allé parler avec une copine qui fait partie de ce groupe de vendeuses.
Vous faites partie d'un groupe de vendeuses, et j'aimerais un peu savoir qu'est-ce que vous faites, comment vous travaillez, quels sont vos buts avec ce groupe.
Oui, je fais partie d'un groupe de vendeuses qui s'est constitué l'année passée. Et nous sommes des vendeuses plus ou moins syndiquées. Et nous travaillons avec les syndicats, avec les 4 syndicats de Genève. Syndicat chrétien, les commis, les syndicats du commerce et des tailles et la FCTA. Ah oui, alors notre but, donc, c'est d'élargir le groupe à tout prix. Et pour ça, on tracte les magasins. On a fait tous les grands magasins de Genève. Et notre but, c'est vraiment de conscientiser les vendeurs et vendeuses pour la lutte dans ce secteur, disons, dans le secteur de la vente. Parce que, justement, c'est un secteur qui est extrêmement exploité. Oui, nous avons déjà tracté plusieurs fois. Et nos revendications, c'était de demander, d'obtenir et d'exiger, finalement, d'avoir 2000 francs de salaire de base, au minimum, parce que c'est un salaire vraiment, on peut dire, presque décent. Parce que 2000 francs, maintenant, personne ne peut vivre avec cette somme. Bon, et puis c'était obtenir aussi le renchérissement de la vie. Et ça, nous l'avons, les patrons ne veulent pas nous le donner. Non, ils ne veulent pas nous le donner. Dans quelques magasins seulement, ça existe. Et puis, les dernières tractatives que les syndicats ont eues avec le patronat, ils ont demandé pas 2000 francs, ils ont demandé 1800 francs et les patrons n'ont pas cédé. Ils veulent arriver seulement à 1600 francs. Alors une vendeuse maintenant, avec charge d'enfant, elle gagne 1400 francs, 1500. Il y a des jeunes filles qui gagnent de 20 ans, elles gagnent 1000 francs, 1200, même moins. Ouais, je sais qu'il y en a qui gagnent quand même 2000 francs, ces femmes donc qui gagnent 2000 francs, elles sont quand même, c'est des premières vendeuses, mais elles sont rares, disons. Et puis il y a une très très grande différence entre un homme et une femme, simplement parce qu'on est femme, on gagnera moins que 2000 francs. Et on fera le même travail qu'un homme, et même entre un apprenti et une apprentie, il y a une différence. Oui, c'est parce que le patron, il est conscient, il joue là-dessus, finalement, sur les privilèges, parce qu'il paiera, il dira, je vous donne 20 francs ou 50 francs d'augmentation, mais vous ne le dites à personne. C'est pour diviser le personnel. Alors, il y a compétition entre vendeurs, vendeuses, au lieu d'avoir l'unité. Et ces vendeuses et vendeurs ne se disent pas entre elles le salaire. Elles ont peur et ça crée des histoires. Et alors nous, dans nos groupes vendeuses au syndicat, on essaie justement de lutter contre ceci et essayer de former une lutte, quoi, une union surtout.
Mais c'est-à-dire une lutte, c'est vachement important, je pense. Mais vous essayez par exemple de convoquer une assemblée, vous avez déjà essayé des choses comme ça?
Oui, on a déjà plusieurs fois essayé, mais c'est trente gros succès finalement, parce qu'il y en a toujours quelques-unes qui viennent, une vingtaine de personnes, au maximum 30 à une assemblée générale, mais dans notre petite réunion, on est souvent très seul, quoi. On est toujours 4 ou 5 et toujours les mêmes à travailler. Et ça, c'est un travail de conscientisation, finalement, de changement de mentalité des vendeurs et vendeuses.
Qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, qu'à Noël, vous aurez pu profiter de l'ouverture des fêtes pour voir un peu ce que vous pouvez, dans le sens, on sait très bien que les vendeuses, elles ne sont pas contentes de cette histoire en général, qu'on les exploite aussi là-dessus. Et puis, est-ce que vous pouvez un peu dire comment ça se passe? C'est-à-dire, combien d'heures supplémentaires elles doivent faire? Ça, vous ne savez pas.
Je sais qu'elles travaillent énormément, qu'elles font la journée. Et puis, bon, c'est vrai qu'elles ont des pauses, mais exactement, je ne sais pas. Mais bon, je sais que c'est nocturne, c'est inhumain, finalement. Et puis, de moi-même, et avec d'autres personnes, on boycotte en tout cas les magasins ce soir-là, quoi.
C'est-à-dire, vous n'allez pas faire vos achats au magasin?
Non, on refuse. Et puis, je connais beaucoup de personnes qui font la même chose. On se le dit, d'ailleurs, de personne en personne, quoi. Parce que c'est pas juste, c'est pas normal. Ces filles, elles sont stressées. Elles ont aussi une famille. Puis après, elles vivent sur les nerfs, elles craquent.
qu'ils font des dépressions, finalement. On a fait une récolte de pétitions. On a ramassé 1000 signatures parmi les vendeurs et vendeuses. Ça paraît peu, mais moi, je trouve que c'est déjà beaucoup parce que c'est très, très difficile. Il y a des femmes, elles refusent de signer, elles ont même peur de leur mari. Il faut qu'elles demandent la permission à leur mari. Alors, moi, je trouve qu'elles sont déjà écrasées par des mentalités.
Allô, allô, ça continue, c'est la pleine lune, c'est Radio Zone, l'émission sur les vendeuses et les grands magasins. On est toujours là pour vous.
Par exemple, il existe un droit de s'asseoir. C'est le département du travail qui conseille au patron justement de procurer des tabourets, des sièges aux vendeuses. Et puis normalement, ça devrait être affiché dans tous les magasins. Et puis le patron ne le fait pas. Et la vendeuse, les vendeurs, souvent ils ne sont pas au courant que ça existe, cette loi. Alors maintenant, dans notre groupe au syndicat, on a aussi fait savoir aux vendeurs et vendeuses qu'il existe ce droit de s'asseoir.
Parce qu'il existe,
il existe.
Elles ne le savent pas.
Elles ne le savent pas, elles ne sont pas au courant. Et on connaît un magasin, le patron refuse que ces vendeuses, même qu'elles n'ont rien à faire, qu'il n'y a pas de clients, il refuse que la vendeuse s'assoie.
Ça fait mal pour
les clients. Oui, ça fait moche. Ça fait moche, paraît-il. Mais il ne faut pas tout espérer que ce soit les syndicats qui font pour nous. Moi, je ne crois pas que c'est à nous de bouger, de se réunir entre nous, finalement, entre vendeurs et vendeuses. Et je crois que la force, elle est là. Et puis ensuite, par le syndicat. Mais finalement, s'il y avait, par exemple, je ne sais pas moi, 3000 personnes qui bougeraient, qui feraient quelque chose, on serait déjà une force énorme. Et les choses changeraient beaucoup plus vite. Parce que les patrons, en ce moment-là, ils prennent quand même un peu peur. Hein. Quand ils voient qu'il y a une masse de gens qui bougent,
C'est quand même là que ça finit.
Voilà, pour en revenir à la question du boycott de l'ouverture de Noël, est-ce que ça vous intéresserait pas de rendre cette action plus générale, par exemple d'organiser une campagne, de mettre des affichettes sur les magasins pour dissuader les gens de venir acheter dans les grands magasins compte tenu des conditions de travail qui sont extrêmement stressantes pour les vendeuses à ce moment-là?
À Noël. Ah oui, moi je trouve que ça serait intéressant de faire ça. Puis d'ailleurs, on avait pensé avec une amie d'aller coller ses affichettes au-dessus de la caisse, hein, par exemple, pour sensibiliser les clients aussi.
much alike.
Bonjour. Nous faisons une émission sur, pour une radio régionale sur les grands magasins et sur les vendeuses. Mais sans cliente, pas de vendeuse. Aussi, je voudrais vous poser quelques questions. Est-ce que vous êtes une cliente assidue des grands magasins?
Oh, je ne suis pas une cliente spécialement assidue des grands magasins. J'aime pas beaucoup venir dans ces endroits. Je trouve que c'est des endroits très pénibles, assez chiants. Mais bon, je viens quand j'en ai besoin. Mais en plus, je suis peut-être une cliente peut-être un peu spéciale parce que j'achète pas tellement dans les grands magasins. Je vole. Je suis une cliente voleuse.
Une cliente voleuse. Ah, c'est la première qu'on rencontre. Et vous volez pourquoi?
Je vole parce que j'en ai besoin, quoi. J'ai pas beaucoup de fric pour me payer les choses dont j'ai envie et dont j'ai besoin. Donc je vole. Elles sont beaucoup trop chères, la plupart on ne peut pas se les payer. Et puis aussi je vole parce que c'est une forme de... C'est terrible, vous entrez dans un magasin, vous avez des choses qui sont assez belles, dont on a envie, qui vous font envie, pour vous, pour vos copains, vos copines. Et puis elles sont impossibles à payer parce que le marché c'est... il faut passer à la caisse. Avant d'avoir quelque chose, il faut passer à la caisse. Tandis que quand on vole... On n'a pas besoin de payer la caisse. Les désirs qu'on a, on peut y répondre comme ça, directement. Et c'est quelque chose d'assez plaisant. Aussi, c'est aussi une forme de lutte contre la consommation, quelque part. Parce que la consommation, c'est le fait qu'on doit travailler pour pouvoir se payer les choses dont on a besoin, dont on en a envie. C'est lié au salaire. Vous travaillez tant d'heures, vous pouvez vous payer tant de choses, vous pouvez avoir tant de choses. Chaque fois, il y a un calcul, est-ce que je peux me le payer, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bien, est-ce que ça rentre dans mon budget. Tandis qu'en volant, on rompt ce rapport de consommation. On n'a plus qu'à se poser la question, comment je vais mettre ça dans mon sac. C'est une espèce de guerre entre les magasins et les femmes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui volent. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir autour de vous, ces télés pour surveiller les clientes, ces écriteaux, tous ces appareils de sécurité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui volent. Le vol, c'est une forme de sabotage aussi contre les grands magasins. C'est une guerre ouverte entre les femmes et les grands magasins, et c'est une arme.
Mais c'est aussi une forme de risque. Vous courez un risque certain.
Oui, en fait, il y a un risque. C'est vrai, il y a une répression contre les gens qui volent dans les magasins, et c'est assez bizarre cette répression, parce qu'à la fois il y a de plus en plus de répression, c'est-à-dire que la plupart des grands magasins appellent les flics, et chez les flics c'est souvent une nuit à Carvoc et peut-être même la prison. Mais en même temps, il y a tellement de gens qui volent, c'est devenu tellement massif qu'ils ne peuvent pas faire des procès. Donc il y a une espèce de justice parallèle qui s'est mis sur pied, à la fois une justice des grands magasins, puisque les grands magasins se font la justice eux-mêmes, ils peuvent prendre l'identité des gens, leur demander leurs papiers, faire des fiches, et demander une amende. Vous voyez là, il y a écrit « le vol ne paye pas », que 50 francs seront pris par les grands magasins. Alors ils disent que c'est leurs frais administratifs, mais en fait c'est une amende. Donc ils se font cette justice privée, qui est semi-légale, mais que la justice est obligée d'accepter parce que sinon ça leur ferait trop de travail. Et en plus, au niveau de la justice, c'est rare qu'il y ait un procès vraiment pour vol à étalage. Vous avez aussi une espèce d'amende qui vous est donnée directement par le procureur général sans passer vraiment par un tribunal de police. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se font arrêter, qui se font attraper, et qui soient envoyés chez les flics. Il y a par exemple certaines boutiques, il y a une boutique à Genève qui s'appelle Biondino, qui est une boutique qui fait son fric sur la mode de jeunes et qui envoie des gens chez les flics, même des mineurs. Mais bon, ça, c'est chaque magasin a un peu sa politique.
De sorte que tout ça repose sur un consensus, sur les valeurs, l'honnêteté, etc. Si sur ce consensus s'effondrait, plus rien ne tiendrait. Il suffit que les gens se déclarent comme vous voleurs Et vous dites que des tas de gens le font actuellement. Et puis, à nous la bonne soupe.
Oui, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui volent, qui resquillent dans les bus, qui payent pas. Il y a toute une forme de resquille, de désobéissance civile qui justement casse cette espèce de morale qu'on nous a inculquée, que les choses, il faut travailler, qu'il faut être honnête, qu'il faut payer les choses qu'on veut, qu'on a besoin. Effectivement, toutes ces formes de resquille, elles cassent un peu cette morale. Et dans ce sens-là, je pense que le vol est assez subversif.
Et les vendeuses, alors, elles sont sur le front de la marchandise. Elles manipulent des marchandises très chères qui passent de très loin leur salaire la plupart du temps. Et elles pourraient se servir également. Est-ce que vous pensez que les vendeuses se servent sur leur lieu de travail, se dédommagent des mauvaises conditions de travail et puis de leur salaire très bas en volant de la marchandise?
Je crois, oui, je connais pas exactement les statistiques, mais il semble qu'il y a un grand pourcentage de ce qui est appelé, je me souviens plus le nom, ils appellent ça, comment ils appellent le vol, dans la comptabilité, ils ont un terme spécial. Mais il y a une grande partie de cette somme qui est effectivement le vol des vendeuses, des vendeurs, des gens qui déchargent, enfin de tout le personnel. Alors là, ce vol, il est difficilement réprimable parce que tous les appareils de sécurité s'adressent aux clients et c'est donc on peut voler si le personnel le vole avant que les étiquettes soient mises. Donc il n'y a pas ce contrôle-là. Je sais que la plupart des magasins pratiquent des contrôles réguliers des affaires des vendeuses, c'est-à-dire que les fouillent à la sortie, ou les fouillent le sac, fouillent leur casier. Donc il y a les patrons savent très bien que les vendeuses volent. Mais moi, je trouve ça tout à fait normal, parce que, bon, indépendamment du fait qu'elle gagne peu, il y a aussi le fait qu'elle manipule des objets, souvent, qui sont tellement disproportionnés par rapport à ce qu'elle gagne, que ça n'est obscène. Quand on sait qu'une robe peut coûter 2000 francs et qu'une vendeuse, au maximum, elle en gagnera 1008, il y a vraiment un décalage qui pousse au vol. Je sais, par exemple, qu'il y a une vendeuse qui travaille dans un grand magasin assez chic, qui gagne 1800 francs par mois pour un plein temps et qui disait faire comme chiffre d'affaires 50 000 à 75 000 francs par mois.
Vous savez qu'il y a des femmes qui ont été vendeuses dans les grands magasins, qui ont trouvé des conditions de travail tellement dures qu'elles ont décidé, en tout cas, que pendant la période de Noël, pour cette ouverture de Noël des grands magasins, elles boycottaient, par solidarité pour les vendeuses, elles boycottaient les grands magasins. Et elles incitent beaucoup d'amis à elles à le faire également. Et vous, qu'est-ce que vous préconisez pour cette période de Noël, pour cette ouverture de Noël?
Je sais qu'il y a eu dans beaucoup de pays des groupes qui se sont organisés autour de la période de Noël pour faire quelque chose par rapport aux grands magasins. Parce que c'est une époque où ils sont le plus obscènes. Tout nous pousse à la consommation, surtout si on a des enfants. Par exemple, il y a eu des groupes dans d'autres pays, même en Suisse, je crois à Zurich, qui ont organisé à la période de Noël des réappropriations collectives. C'est-à-dire, ils allaient dans un magasin, un groupe, et ils disaient « maintenant on prend tout ». Ils disaient aux gens « allez-y, c'est gratuit ». Ou alors eux-mêmes se remplissaient les poches et partaient en courant à une trentaine. Il y a aussi une autre histoire qui me plaît bien, qui s'est passé il y a 2-3 ans à Toulouse, dans un Mammouth, c'est une espèce de Migros française, où les caissières, vers 5h du soir, le jour de Nouvel An, ont déclaré grève sur le tas pendant 2 minutes. Et les gens qui avaient leur chariot plein de bouffe pour leur gueuleton de Nouvel An sont partis en courant, et il semble qu'il y a eu plus d'un million de francs qui ont été chipés comme ça au grand magasin pour 2 minutes de grève des caissières. Et il y a aussi d'autres gens qui ont fait des actions contre la marchandise. Parce que les grands magasins, bon, il y a le vol, mais il y a aussi parfois le dégoût de cette marchandise qu'on nous propose, qui effectivement, elle nous fait peut-être envie, mais la plupart du temps, elle est dégueulasse. Et il y a des gens qui sont allés dans les magasins pour foutre en l'air cette marchandise, pour montrer comment ça les dégoûtait. Alors ils allaient avec des lames de rasoir, ils crevaient les paquets de sucre et de farine, ils coupaient les vêtements, ils foutaient de la merde partout, ils foutaient des acides qui puaient, des boules puantes, aussi pour montrer que ce sont des lieux qu'on nous oblige à acheter ça, mais que c'est vraiment la plupart du temps de la merde.
Eh bien, écoutez, merci pour tous ces bons conseils. Et puis, si ni les vendeuses, ni les caissières, ni les clientes et les autres ne sont sourds, alors, bonne année.
Et vous, vous volez ?
Ça dépend, mais vous avez raison. Mesdames, mesdames, vous êtes belles. Envolez-vous.
Et dans les grands magasins, il y a des systèmes de sécurité, non ?
Oui, il y a plusieurs systèmes de sécurité dans les grands magasins pour lutter contre le vol. Alors, le premier, le plus simple, c'est des étiquettes qui sont en plusieurs morceaux, ce qui fait qu'on ne peut pas changer des étiquettes, les prix sur les produits. Ou alors si on essaye, l'étiquette part en morceaux. Un autre système qu'on trouve dans tous les magasins, c'est que le bureau du gérant est surélevé avec des vitres et il voit un peu, il a une vision panoramique sur le magasin. Il y a aussi des miroirs, des espèces de miroirs qui montrent un peu tout le magasin que la caissière peut regarder. Il y a aussi des appareils de télévision qui filment ce qui se passe dans le magasin avec un écran qui est placé soit au-dessus de la caissière, soit dans le bureau du gérant. Alors tous ces magasins qui sont basés sur le fait qu'il y a quelqu'un qui regarde, tous ces systèmes, je m'excuse, qui sont basés sur le fait qu'il y a quelqu'un qui regarde, sont pas très bons pour le magasin, puisqu'il n'y a jamais quelqu'un qui regarde en permanence, que ce soit la télé, que ce soit le miroir, ou que ce soit le gérant dans son bureau. Ce qui fait que beaucoup de gens qui volent peuvent très bien voler malgré la télé ou malgré les miroirs. Une autre des méthodes qui est utilisée par les magasins, c'est le système des fausses clientes ou fausses clients. Il y a une personne qui joue à être une cliente, qui se promène dans le magasin avec un chariot, qui achète quelque chose et qui surveille, qui regarde. Alors ces fausses clientes sont assez dangereuses pour les voleurs parce que elles repèrent assez vite quelqu'un qui a l'air bizarre, qui fait des gestes un peu cachés et elles le suivent. Alors bon, la seule manière d'échapper à ça, c'est de faire très attention. Dernièrement, les magasins ont mis au point un système très très coûteux, qui leur coûte sûrement presque plus cher que ce que leur coûte le vol, mais enfin, c'est peut-être une question de morale, c'est le système des étiquettes magnétiques. Il y a une étiquette qui est mise dans le vêtement, en général, c'est une grosse étiquette en plastique qu'on voit, qui est pincée dans le vêtement, et si par exemple le vêtement est volé, vous passez à travers pour sortir du magasin ou pour descendre des escaliers, vous devez passer à travers une barrière magnétique. Et si l'étiquette n'est pas enlevée, il va y avoir une sonnerie et une lumière qui s'allume. Alors on trouve ce système par exemple à la Placette, au rayon des vêtements, chez Spengler, au Bon Génie, chez Hochstetter Sport. Principalement. Alors, il y a deux systèmes. Il y a soit l'étiquette, elle est vraiment dans le tissu et là, on ne peut pas l'enlever. Soit l'étiquette, elle pend comme une étiquette pour les prix et donc on peut l'enlever. Et alors, on peut passer la caisse, on peut sortir sans problème. Alors, dans le cas où l'étiquette, elle est vraiment coincée dans le vêtement, là, la seule manière, c'est d'essayer de trouver la pince avec laquelle les vendeuses enlèvent l'étiquette et de l'enlever. Je ne sais pas. Sinon, peut-être, il faudrait étudier le problème plus en détail, voir si on peut essayer de démagnétiser ces étiquettes ou rendre fou l'appareil en plaçant des aimants entre les barrières magnétiques. Ce serait une autre des méthodes. Au 13 rue de l'Espoir, nous recueillons des signatures pour une pétition sur la suppression du mois de décembre.
On va te faire pipi, c'est spécial dernier. Ce soir, il y a une assemblée de vendeuses à la petite salle du Faubourg avec les quatre syndicats. On y discute salaire.
Ouais, ouais, nanay, ça marche. Ouais, ouais, nanay, ça cela, le voilà. Et dit à Yusuka, Yusuka, ouais, Yusuka, Toga, cela, le voilà. Et dit à Yusuka, Yusuka, ouais, Yusuka, manquez ta face, tant que pas de mal. Ue, ue, costa rasella, ue, ue, costa rasella, e costo e chi è costi broccala, costi broccala, costi broccala. L'ugora gomma sproccala.
Voilà, c'est la fin de l'année. Il paraît que c'est le moment de faire des vœux et qu'ils risquent peut-être d'être exaucés. Nous, on en a quelques-uns de vœux. On pense toujours aux gros et aux petits cochons qui gargouillent à Genève. On se dit que ce serait peut-être le moment qu'ils arrêtent de sévir, qu'ils aillent se promener ailleurs. Il y a Tissot, l'abominable docteur Tissot, l'homme des horreurs professionnelles. Il sévit toujours à Bel Air. Ce serait les moments qu'il a cultivé des choux. Ce serait aussi le moment que le rapport sur la mort d'Alain suite à une cure de sommeil soit publié et que le procès ait lieu. Il semble que peut-être Tissot ne sera plus directeur de Bel Air, mais en tout cas, il va rester à la recherche, à faire des expériences sur les malades. Tissot doit démissionner. La souffrance des gens ne doit pas être utilisée pour une soi-disant recherche scientifique et la renommée des professeurs. Il y a aussi Hensch, directeur de la prison de Chandolon. Ça fait des années aussi qu'on exige que cet assassin démissionne. Ras-le-bol de cette prison béton et de son garde-chiourme. Et Fontanet, lui aussi continue à sévir, à couvrir les flics qui tirent, qui assassinent. Il paraît que c'est un homme très sensible. On a appris qu'il lisait des poèmes de Breton en se brossant les dents, et que lors du massacre de la rue de Fribourg, où trois personnes qui préparaient un hold-up ont été trucidées par la police genevoise, sans avertissement, froidement, il paraîtrait que Guy Fontanet, catholique convaincu, a très mal supporté ce genre de règlement de compte. Eh bien, qu'il aille donc lire ses poèmes ailleurs. et Kurt Furgler, qui depuis 10 ans fait tout pour que rien ne soit changé sur l'avortement. Et tant d'autres, la liste est très longue, à chacune et à chacun de faire cette liste. Tous ces hommes puent la mort, on veut plus de vie dans cette ville. Enfin, bonne année. N'oubliez pas demain, manif fête à 18h au Mollard.
Qu'on ne rattrape plus. radio
La Lune.
Cette émission vous était offerte par la mère Noël. Demain, continue Pandémonium sur Radio Zone. À l'année prochaine.